France Culture, les matins d'été. Lucas Manger.
Je reçois ce matin un ministre qui a sans doute longuement réfléchi à sa mission, à son poste, qui n'avait probablement qu'une envie, être précisément à cette place aujourd'hui. Avant de s'installer dans son bureau, il a écrit beaucoup sur ce que devrait être son rôle, ses réformes, ses ambitions et ses buts. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Vous êtes, comme chacun sait, ministre de l'Éducation nationale, en charge du plus important budget de l'État français, mais aussi de l'un des dossiers les plus complexes et les plus attendus de ce gouvernement. Dans 5 semaines, peu ou prou, ce sera la rentrée des classes. Vous avez souhaité imprimer votre marque et réformer dès maintenant. Nous allons détailler votre vision et vos annonces tout à l'heure. Vous avez écrit plusieurs livres. L'invention de l'État, un ouvrage sur la naissance du droit public moderne, qui est votre métier d'origine. Vous êtes agrégé de droit public, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
L'école de la vie, où vous réfléchissez aux liens, notamment parmi les sujets que vous abordez, mais les liens que l'école devrait tisser mieux avec les sciences, et les sciences du développement en particulier. L'école de demain, qui est, on peut imaginer en quelque sorte, votre programme de ministre de l'Éducation nationale, et vous partagez aussi votre passion de l'école. Et puis un autre livre qui va sortir dans les jours qui viennent, Que sais-je sur la Colombie. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que vous sortez un Que sais-je sur la Colombie. Bien d'abord parce que c'est l'année de la Colombie en France, 2017, et puis c'est un pays où vous avez vécu, que vous aimez beaucoup, et qui est un peu l'autre facette de votre vie, votre passion pour l'Amérique latine. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Michel Blanquer, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez longuement préparé, écrit et annoncé votre arrivée à ce poste ?
Bon, c'est un peu excessif de le dire comme ça. Ce qui est vrai, c'est que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets dans des responsabilités diverses et variées, notamment en tant que recteur, quand j'étais en Guyane ou lorsque j'étais à Créteil. Et dans différentes responsabilités.
Et vous avez été numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale sous Luc Châtel.
Tout à fait. Donc forcément, j'ai réfléchi à ces sujets. Si j'ai préparé ce poste, c'est un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire c'était naturel.
C'est naturel parce que l'éducation, on a parlé de l'Amérique latine, mais l'éducation, c'est votre passion première.
Oui, c'est ma passion absolue, si je puis dire, mais parce que. Pour moi, ça relève d'une sorte d'évidence, c'est-à-dire l'éducation, c'est la vie, d'une certaine façon. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, nous nous définissons par l'éducation, c'est par les interactions que l'on a dès la naissance et même un peu avant, que nous sommes êtres humains, que nous sommes des personnes. Donc l'éducation, c'est la vie et c'est pourquoi c'est la chose qui me passionne le plus.
Mais ça vous est venu après votre agrégation de droit ?
Non, ça m'est venu avant, puisque précisément, si j'ai passé l'agrégation, c'est parce que déjà, j'étais passionné par l'enseignement. Dès que j'ai, évidemment, de manière de plus en plus précise au fil de ma vie, mais c'est surtout dès que j'étais en première année à l'université, j'ai compris que ce métier me plaisait énormément.
L'enseignement vous plaisait. Il y a 2 semaines, je recevais ici même Édouard Philippe, le Premier ministre, qui expliquait qu'il était passé de la gauche à la droite. Quand, au cours de ses lectures, il avait compris qu'il préférait la liberté à l'égalité. C'est un point commun que vous avez avec le Premier ministre ?
On n'a pas le même parcours. Il a tout de suite été assez vite dans une carrière politique, ce qui n'est pas mon cas.
Pour ma part, non, mais en dehors de la politique elle-même, oui. On peut dire même philosophiquement, vous l'avez dit, écrit, vous préférez aussi la liberté à l'égalité.
Non, je n'ai jamais pu m'exprimer de cette façon-là. Je pense que, bon, d'abord, la devise républicaine est fondamentale. Hein, liberté, égalité, fraternité, elle nous dit tout d'une certaine façon. Et j'attache énormément d'importance à l'égalité, mais à une égalité véritable. Et si j'ai eu parfois à m'exprimer sur l'égalité, c'est pour dire que une certaine conception uniformisante pouvait aller à l'inverse de l'égalité. Et c'est d'une certaine façon ce qu'on a vécu à l'école depuis maintenant beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire le fait de vouloir faire la même chose partout, tout le temps, de la même façon, est en fait contre-productif pour les plus fragiles. C'est ma conviction profonde. Donc quand je veux résumer ma pensée sur le sujet, je peux dire que je veux tirer le système vers le haut, et ce, non pas par élitisme, mais au bénéfice des plus fragiles. Donc cette volonté de tirer le système vers le haut peut aussi se résumer en disant c'est par la liberté qu'on va aller vers plus d'égalité. C'est en déployant les initiatives, en reconnaissant la diversité des talents et des difficultés, que l'on peut avoir des effets de levier ensuite sur chacun pour l'amener au meilleur de lui-même.
Donc quand vous dites, la semaine dernière, je crois, dans une interview dans le journal du dimanche, le vrai ennemi du service public, c'est l'égalitarisme, il y a des gens, et vous l'imaginez bien, qui conçoivent ça au cœur de l'été un peu comme de la provocation.
Non, je pense qu'il y a des gens qui parfois ont envie d'entendre des provocations là où il n'y en a pas, parce que parfois cette phrase est citée sans regarder la phrase d'avant ni la phrase d'après, qui en gros dit ce que je viens de dire à l'instant, puisque la phrase d'après, ça doit être « c'est par la liberté qu'on ira vers plus d'égalité ». Donc je suis un passionné de l'égalité, je veux l'égalité, et c'est précisément parce que je ne me paye pas de mots. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se payent de mots quand ils parlent d'égalité, vous savez. C'est très facile d'aller sur une estrade et de dire égalité. C'est plus difficile de dire comment on y arrive et parfois de prendre des décisions, parfois un peu, qui nécessitent un peu de courage pour arriver à la véritable égalité. Vous savez, dans ma carrière, j'ai déjà fait beaucoup de projets qui ont permis d'aller vers plus d'égalité, de permettre que des enfants issus des milieux défavorisés aient une destinée eh bien, qui aille dans le meilleur sens. Eh bien, je ne me paye pas de mots. Je vais vers l'égalité avec des choses concrètes. Et pour y aller avec des choses concrètes, j'essaye de provoquer plus de liberté de la part des acteurs.
On va aller dans le détail de ce que vous proposez, de ce que vous avez écrit. Comment résumeriez-vous, si c'est possible, le fil directeur, l'axe commun qui va... que vous souhaitez imposer, marquer, de l'école maternelle jusqu'au baccalauréat. Jusqu'à présent, effectivement, on a toujours dit que le socle commun de l'éducation nationale, c'était l'égalité, point. C'est l'égalité pour tous. On sait bien que c'est pas exact forcément partout, que ça n'a pas fonctionné partout et tout le temps. Quel est votre fil directeur de la maternelle au baccalauréat ?
Mon fil directeur, c'est justement d'abord une philosophie de l'éducation, c'est-à-dire le fait que l'éducation mène à la liberté. Je disais tout à l'heure, l'homme se définit par l'éducation, la personne humaine se définit par l'éducation. Mais l'éducation, à son tour, peut se définir par la liberté, car ce qui donne sens à toute éducation, c'est de donner plus de liberté, plus d'émancipation à l'enfant. Mais c'est pas la liberté consommation, c'est pas la liberté immédiateté que notre société présente tous les jours de façon très facile. C'est la liberté construction. Et donc le fil directeur, c'est le fait d'aller vers toujours plus de liberté pour l'enfant. Et cette liberté, elle va donc croissante avec les années qui passent, le temps qui passe. Et donc un élève de terminale n'est pas évidemment dans la même situation qu'un élève de petite section de maternelle. En clair, cela signifie que l'école primaire doit être assez rigoureuse dans ses méthodes pour donner d'emblée un socle fondamental aux enfants qui ensuite leur permettront de se déployer. Il faut aller du plus simple au plus complexe. Les sciences cognitives, d'ailleurs, corroborent cette approche. Elles nous disent que dans les premières années de la vie, il faut avoir acquis des choses qui constituent ce socle et qui, si on ne les acquiert pas dès le début, vont ensuite vous créer des handicaps importants pour la suite. Exemple très simple, les tables de multiplication, si vous ne les apprenez pas bien enfant, vers 6-7 ans, eh bien, ce sera un handicap ensuite dans la vie parce que c'est plus difficile de vous constituer le socle de mémoire pour ça. Et donc, si ensuite vous devez aller vers des choses plus subtiles en mathématiques, eh bien, c'est ça. C'est pourquoi, par exemple, il ne faut jamais faire des oppositions entre la mémoire et le sens. Ça fait partie de ces clivages qu'on trouve souvent dans les débats pédagogiques parce qu'on a besoin des deux à la fois et que l'exercice de la mémoire dès l'enfance est au service du sens et donc au service de la liberté. Et c'est cela ma philosophie, c'est cette idée d'un déploiement progressif de la liberté qui signifie donc que l'on doit articuler des enjeux qui souvent sont présentés comme des contradictions, mais qui n'en sont pas. L'effort et le plaisir, par exemple.
Dans votre livre, L'école de la vie, vous posez cette question dès le début. Il faut que l'éducation échappe aux effets contingents de la politique courante, car le rythme de l'éducation n'est pas le même rythme que celui de la politique. Évidemment, ça c'est quelque chose que vous écrivez avant d'être ministre. Soyons un peu honnêtes, est-ce que une fois que vous êtes en poste, vous pensez que c'est encore possible que la politique de l'éducation nationale échappe au rythme de la politique au sens général ?
Oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait souhaitable et désirable.
Souhaitable, oui, mais est-ce que c'est possible ?
Et faisable, oui, je pense. Bon, a fortiori avec le contexte politique que nous vivons maintenant, puisque l'élection d'Emmanuel Macron a quand même permis d'abord un dépassement du clivage gauche-droite. Elle permet d'inscrire de nouvelles logiques dans l'action publique. Et évidemment, je m'inscris totalement dans cette logique, celle d'un sillon long. Pour l'éducation, si vous voulez, il y a des transformations qui peuvent être de court, de moyen et de long terme. C'est ce que je suis en train de distinguer. Des modifications de court terme comme celles que j'ai pu commencer
là pour l'école pour la rentrée de septembre.
Et puis des sujets de plus long terme. Je prends un exemple parmi bien d'autres, parce que tout est relié, mais par exemple les vocations de professeurs, c'est un sujet extrêmement important. Il y a des étudiants qui nous écoutent, qui certains vont se destiner à la fonction de professeur, et je souhaite qu'ils soient nombreux et passionnés. Eh bien, c'est un sujet qui se travaille sur la durée, parce qu'il faut justement parfois faire du pré-recrutement, créer des bourses pour les étudiants dès la première année de faculté quand ils se destinent à cela, embaucher des assistants d'éducation, l'éducation qui vont exercer des missions de plus en plus intéressantes dans les établissements et être ensuite de futurs professeurs. Bref, des idées comme ça qui donnent leurs fruits sur plusieurs années. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'héritage que je reçois, qui n'est pas seulement du précédent gouvernement, mais de tous les gouvernements qui se sont succédés, j'essaye de discerner entre ce qui doit faire l'objet de grandes continuités, parce que c'est indispensable, et puis ce qui doit faire l'objet d'inflexions, parce que c'est indispensable aussi.
Vous parlez des professeurs et des étudiants qui se destinent à être professeurs, puisque vous êtes sur des réflexions sur le temps moyen et le temps long. Est-ce que parmi les réflexions que vous avez, il y a cette question qui est finalement centrale, le salaire des professeurs?
Oui,
les professeurs enseignants, instituteurs, enseignants du primaire, du secondaire en France sont mal payés. Chacun le sait.
Chacun le sait.
Et ça contribue à un manque de vocation, un manque d'envie, un manque de plaisir à l'enseignement probablement. Est-ce que ça fait partie des réflexions sur le temps court, moyen ou long?
Bien sûr. Bah, sur les trois, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que vous dites est juste. C'est évidemment au cœur de mes réflexions. Ça fait partie d'un ensemble plus général, qui est la question de la dignité du professeur dans notre société. Bien entendu, je me considère comme un ministre des professeurs. J'en suis un. Je suis en soutien des professeurs. J'attache une importance considérable à cette place du professeur dans la société en général. Vous savez, je parle souvent d'une école de la confiance pour une société de la confiance. Chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. On ne se fait pas assez confiance les uns les autres et le débat public le montre tous les jours.
Et donc, le débat entre les ministres de l'Éducation nationale et les professeurs a souvent été un débat très défiant et rarement dans la confiance ces dernières années en tout
cas. Absolument, c'est très vrai. Et c'est justement ce que j'aimerais changer, en sachant que ça ne va pas de soi, que ça ne se décrète pas, mais c'est en tout cas ce que je souhaite faire, c'est-à-dire avoir un message direct vis-à-vis des professeurs en leur disant que je suis leur ministre, que leur rôle est absolument fondamental. Je leur ai écrit juste avant le départ en vacances pour leur dire cela, leur dire qu'ils exerçaient une mission de très grande noblesse, absolument fondamentale au cœur de la société, et que je serai toujours en soutien de cette mission et que c'est mon rôle d'être en soutien de cette mission, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qui se passe pour de vrai dans la classe et dans l'école ou dans l'établissement. Et donc, je suis profondément habité par cela. Ça passe par le pouvoir d'achat, mais ça passe aussi par le bien-être à l'école, comme on dit. Donc
la dignité, comme vous l'aviez dit à l'instant, mais la dignité, par exemple, il y a un ensemble de facteurs.
Il y a un ensemble
de salaire en fait partie.
Mais il y en a d'autres. Le travail, la qualité de ce qui se passe au travail. Si vous voulez, par exemple, l'esprit d'équipe dans un établissement, ce qu'on pourrait appeler la bonne ambiance, la relation avec les parents d'élèves, la considération de la part de la société extérieure, la considération de la part du ministère. Le travail sur les disciplines et sur l'interdisciplinarité aussi, tous ces sujets, les professeurs sont passionnés par leur domaine, par ce qu'ils enseignent, donc le ministère doit évidemment attacher une importance fondamentale à ça. Donc c'est cet écosystème du professeur qu'il faut considérer, et évidemment mon but est d'aller le plus loin possible pour conforter le professeur. Là où il y a aussi les enjeux de carrière qui vont un peu avec les enjeux de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on peut faire différentes carrières au sein de l'éducation nationale, on peut parfois faire des secondes carrières en sortant de l'éducation nationale, peut-être parfois momentanément. Il peut y avoir aussi des gens qui ne sont pas à l'éducation nationale qui vont faire une seconde carrière dans l'éducation nationale. Tous ces sujets de fluidité, tous ces sujets qui ouvrent des perspectives, tous ces sujets qui ouvrent les fenêtres, tous ces sujets qui créent du lien sont des sujets qui vont conforter le professeur dans sa dignité, dans son bonheur au travail, tout simplement, dans son bonheur tout court. Et évidemment, je suis là pour chercher à améliorer cela. Et plus on se fera confiance, plus on y arrivera.
On va revenir à la maternelle. Vous écrivez, en reprenant Edgar Morin, qu'il faut y enseigner avant tout la compréhension. C'est à cet âge, entre 3 et 6 ans, que se noue ce rapport à l'apprentissage et donc aussi une notion sur laquelle vous insistez beaucoup dans l'école de la vie, la coopération entre l'école et la famille. Vous pensez que ce lien a été un peu brisé ces derniers temps entre l'école et la famille dans l'éducation et l'apprentissage de l'enfant, évidemment?
De façon générale, ce lien école-famille qui est absolument essentiel, hein, et les études internationales montrent que c'est un des facteurs principaux de réussite d'un système scolaire, ce lien n'est pas un point fort du système français depuis toujours. Et c'est quelque chose qui doit s'améliorer. Alors c'est un point un peu plus fort à l'école primaire que dans le second degré, on le sait bien, mais on doit tout améliorer. Il y a une dizaine d'années, j'avais imaginé quelque chose qui s'appelait la mallette des parents, qu'on avait expérimenté dans l'Académie de Créteil, qui ensuite a été élargie à l'échelle nationale, poursuivie pendant toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Je vais encore l'accentuer dans les années à venir pour créer ces réunions en petits groupes avec les parents d'élèves, pour créer cette confiance entre l'institution, au travers des professeurs, et les parents d'élèves, de façon à ce qu'il y ait une convergence famille-école de plus en plus forte.
Dès la maternelle.
Et alors, à l'école maternelle, a fortiori, parce que c'est le moment où il faut faire comprendre à tous, et donc y compris aux parents, les grands enjeux de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut prendre l'école maternelle très au sérieux. C'est un moment décisif. Alors, pour le coup, l'école maternelle est plutôt un point fort français. L'école maternelle va assez bien en France, mais elle pourrait aller encore mieux pour être véritablement ce que j'appelle l'école du langage, c'est-à-dire le moment où on lutte vraiment contre les inégalités, parce que la première des inégalités, elle est devant le vocabulaire. Quand vous arrivez à 3 ans à l'école maternelle, vous avez déjà plus ou moins de vocabulaire
en fonction du milieu social.
Donc l'école doit venir compenser cela avec une école maternelle qui a des objectifs pédagogiques très précis, tout en le faisant par les éléments d'épanouissement qui sont consubstantiels à l'école maternelle, la musique, le jeu, le poème, les contes, etc. Alors, tout ce que je suis en train de dire existe déjà, fort heureusement, mais on peut aller plus loin, faire mieux, et notamment grâce à la coopération avec les parents, et grâce aussi à des réflexions sur ce qui se fait de mieux dans le monde en la matière.
Vous citez à plusieurs reprises la méthode, cette fameuse méthode Montessori, imaginée, je crois, au début du siècle.
Du 20e siècle.
Méthode Montessori qui vous inspire. Est-ce qu'il faudrait que l'école maternelle et l'école primaire ouvre les fenêtres un peu plus sur des méthodes qui, jusqu'à présent, l'école Montessori est réservée quand même à des gens qui ont... Ce sont des écoles privées, hein, donc qui ont les moyens de se payer ça. Mais vous voudriez prendre certains des principes d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage des écoles Montessori pour essayer de les faire appliquer dans les écoles publiques.
Si vous voulez, moi, je suis pour la créativité, je suis pour la diversité des expériences, donc je n'ai jamais dit qu'il fallait faire Montessori partout, par exemple. Et puis, Montessori doit être revisité, c'est l'esprit Montessori que l'on doit avoir, qui est excellent. Mais après, les modalités doivent évidemment évoluer.
Mais c'est une source d'inspiration.
C'est une source d'inspiration, parce que Maria Montessori est une sorte de génie pédagogique. Qui a encore beaucoup d'actualité, mais au-delà du cas de la pensée de Montessori, c'est la démarche qui est importante. C'est pourquoi, quand j'étais directeur de l'enseignement scolaire, j'avais encouragé l'expérience Montessori en éducation prioritaire, donc gratuite, bien sûr, et pour des élèves de milieux défavorisés, et qui a eu un certain succès. Et dans le futur, je pense que plutôt que de voir ces expériences qui existent dans le privé, souvent hors contrat, comme des choses bizarres ou inquiétantes, de voir au contraire en quoi elles peuvent être inspirantes pour le service public et nous permettre de développer des choses qui soient utiles aux
enfants.
Dans
quel domaine, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être pris dans ce système et applicable assez rapidement là dans les maternelles ou les écoles primaires publiques?
Vous avez aujourd'hui, alors l'école maternelle est vraiment un très bon exemple parce que c'est ce qui ouvre la voie à beaucoup de créativité. Donc vous avez beaucoup d'écoles très diverses qui sont un peu dans cet esprit Montessori dont on a parlé, qui d'une manière ou d'une autre favorise les manipulations par les enfants, favorise les parcours très personnalisés au rythme de l'enfant. Il y a un des grands principes Montessori, c'est par exemple d'avoir petite, moyenne et grande section mélangées pour aller au rythme de l'enfant, ce qui fait que vous avez parfois un enfant qui lit à 4 ans, ce qui n'est pas un problème, enfin plutôt même souhaitable. J'ai vu dans une école maternelle un enfant de 4 ans lire à ses amis, à ses camarades de classe, donc des effets de compagnonnage existe. Vous avez donc une espèce d'esprit de liberté canalisée, de liberté avec un objectif pédagogique qui se déploie dans de nombreuses écoles, et y compris fort heureusement dans le service public. Donc c'est mon message aux professeurs, c'est aussi celui-là. C'est vous avez en vous les solutions parce que vous êtes au plus près des réalités, et donc l'institution ne va pas vous empêcher de développer ces solutions, elle va au contraire vous accompagner dès lors que ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire celle de la réussite de l'enfant.
Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelques instants, c'est les écrans, le numérique d'une manière générale. C'est quelque chose sur lequel vous écrivez beaucoup. Pour le coup, la confrontation, j'allais dire, aux écrans et au numérique est quelque chose de partagé à travers tous les milieux sociaux en France aujourd'hui, mais pour lequel on n'a pas encore de réponse à l'école. Et on le voit bien, les enseignants, en gros, gèrent chacun comme ils le peuvent cette difficulté de l'apprentissage. Certains enfants n'apprennent à lire que sur des écrans, confrontés à de multiples écrans. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment que vous les aidiez, les professeurs, les enseignants, que vous les aidiez à appréhender cet univers-là ?
Bien sûr, il faut une philosophie, une vision sur le sujet, et puis des méthodes. Sur le plan de la vision, je pense que la question de notre temps, sans employer des mots trop grandiloquents, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. C'est la question de notre temps. Et je suis pas le premier à la poser, même si je le dis en ces termes spécifiques. Il y a, et donc nos enfants, nous devons sans arrêt les mettre en situation de se poser cette question, d'avoir du recul par rapport à la technologie et d'en faire le meilleur usage, puisque la technologie, c'est comme la langue des opes, c'est le meilleur ou le pire selon l'usage que l'on en fait. Et donc cette question doit être déjà au cœur de ce que l'on fait. Vous avez évoqué Edgar Morin tout à l'heure, lorsqu'il parle d'apprendre à vivre dès la petite enfance. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire en fait avoir du recul sur les choses et les mettre en perspective. Donc s'agissant du numérique, pour moi il y a un mot-clé, c'est le mot de discernement. On doit avoir un usage réalisé avec discernement à l'école du numérique. Et par exemple, nous savons aujourd'hui que les écrans provoquent des dégâts de 0 à 6 ans.
Des vrais dégâts cérébraux.
Donc il y a évidemment nécessité de faire attention à ce que les enfants soient finalement peu en contact avec les écrans pendant les premières années de leur vie.
Mais enfin, une fois que ces années-là sont passées, ils ont globalement le téléphone au bout de leur main qui est devenu une prolongation.
Sûr. Et là, il faut en faire un bon usage. Et puis même dans les premières années de la vie, en réalité, on peut avoir un certain usage. Il y a par exemple des programmes qui sont très pertinents pour lutter contre certaines dyspraxies, ou des programmes qui sont très intéressants pour l'entrée dans la lecture ou l'écriture, ou le calcul. Donc il faut juste canaliser considérablement les usages. Par ailleurs, le numérique, ce ne sont pas que les écrans. On parle toujours de la révolution numérique, mais en fait, il y a des révolutions numériques. Et par exemple, moi, je suis très attentif à la révolution robotique qui a lieu actuellement, celle de l'intelligence artificielle qui vient avec. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, des robots qui, évidemment, ont des usages pédagogiques très intéressants. On a lancé à l'Élysée il y a 2 semaines le 4e plan autisme. Vous avez désormais des robots qui servent pour travailler sur la sociabilité des enfants autistes. Et c'est évidemment extrêmement intéressant. Et vous n'avez pas les inconvénients de l'écran.
On va continuer, Jean-Michel Blanquer, cette discussion après le journal de 8h. On reviendra effectivement sur le numérique et sur un certain nombre de mesures que vous avez prises pour la rentrée de septembre. On les détaillera avec vous à partir de 8h15. Dans quelques secondes, ce sera le journal de 8h.